Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Que son nom soit béni. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Et j'aimerais parler avec vous ce matin de la tentation. Et je crois que tout le monde est concerné. On ne pourra pas dire ce matin, dans la prédication, ne me concernait pas. Nous sommes tous affligés par la tentation. Et le titre du message, c'est vaincre la tentation, parce qu'on a besoin d'outils et de conseils pour pouvoir vaincre la tentation. Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13, il nous est dit: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes tous confrontés à de nombreuses tentations dans notre vie chrétienne. Et souvent on a du mal à comprendre pourquoi ça nous arrive, pourquoi on tombe dans certaines aussi. Et pourquoi on est sujet à tant de tiraillements de tentations. Et malheureusement, beaucoup sont malmenés par les propositions peut-être alléchantes qui sont faites en tout genre. La tentation provoque un réel combat dans nos vies. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde. Il y a un combat entre ce qui nous est proposé, qui vient de l'adversaire, du tentateur, de Satan. Et puis l'Esprit de Dieu qui veut vivre en nous, qui veut se développer en nous, qui veut grandir et qui veut nous faire marcher dans les voies de Christ. Et il est important de comprendre que la tentation, c'est un réel combat et que c'est un combat qu'il faut gagner, qu'il faut vaincre, un ennemi qu'il faut vaincre. Et premièrement, j'aimerais voir avec vous qu'il faut être prêt au combat. Prêt au combat, et c'est-à-dire recevoir le revêtement de l'Esprit. Il y a beaucoup de tentations et Jésus est tenté, emmené dans le désert. Mais avant, il y a le baptême, son baptême. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, s'il y a une colombe qui est descendue sur vous, et il y a eu des cieux qui se sont ouverts. Je ne pense pas, pour moi ça n'est pas arrivé en tout cas, mais on voit ici vraiment un passage qui est fort, qui est important, qui est plein de symboles. Et une question m'est venue, et je pense que je ne suis pas le seul à m'être posé cette question: pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Il n'avait pas besoin d'être baptisé, il était sans péché. Alors pourquoi il avait besoin d'être baptisé? Personne ne comprend pourquoi, lui qui est sans péché. Il reçoit l'onction et le revêtement de l'Esprit. C'est déjà pour cela qu'il est baptisé, c'est pour avoir une reconnaissance, la reconnaissance paternelle. Le Dieu, son Père, va dire: celui-ci, c'est pas un homme comme un autre, c'est mon Fils bien-aimé, c'est celui que j'ai envoyé pour chacun d'entre vous. Et pourquoi Jésus-Christ est baptisé, c'est aussi pour que nous puissions suivre ses pas. S'il n'avait pas été baptisé, est-ce que ça serait devenu un passage obligé pour notre vie chrétienne? S'il n'avait pas été baptisé, on aurait dit: oui, mais lui, il n'a pas été baptisé, pourquoi moi je dois passer par les eaux du baptême? C'est aussi un exemple, parce que nous sommes ses disciples, et nous l'avons vu vendredi dernier, nous sommes ses disciples, et un disciple, ça suit l'exemple. Jésus-Christ a été l'exemple en toutes choses, et aussi dans le baptême. Il reçoit l'onction et le revêtement de l'Esprit. Le baptême fait partie de notre vie chrétienne et c'est même un engagement devant Dieu et devant les hommes. La parole nous le dit. Et à partir du baptême, la tentation va commencer. Jésus-Christ va être emmené dans le désert pour être tenté suite à cet engagement, suite au baptême. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas être, on ne peut pas faire face efficacement à la tentation si on n'est pas revêtu du Saint-Esprit, si on n'est pas armé de l'Esprit de Dieu, si on n'a pas dans nos vies l'Esprit de Dieu. Il est important de rechercher l'Esprit Saint. Alors quand nous tournons vers Dieu, l'Esprit Saint nous convainc de péché, de justice, de jugement, et il serait faux de dire que nous avons l'Esprit Saint que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous dès que nous nous tournons vers Dieu, parce que c'est lui qui fait son œuvre en nous de repentance et de nouvelle naissance. Il est en nous, mais il est important aussi de rechercher le baptême du Saint-Esprit, qui est un revêtement de puissance et qui va nous aider à faire face à la tentation. Nos propres efforts, notre propre personne, si nous sommes seuls, nous ne serons pas assez forts pour faire face. Et Jésus va dire à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On connaît tous ce verset, on peut dire la fin. La chair est faible, nous sommes faibles. Notre personne, notre être est faible face à la tentation. Et le Seigneur dit de prier, de veiller, car la chair est faible. Nous devons prier pour rechercher que l'Esprit de Dieu soit renouvelé en nous, puisse être encore plus puissant dans notre vie. Une autre question, pourquoi Jésus, nous sommes là, quand il leur dit de veiller et de prier, dans le jardin de Gethsémané, où il prie son Père d'éloigner la coupe, il va être crucifié dans les heures à venir, et il leur dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi Jésus leur dit-il ça à ce moment-là? Puisque ça le concerne plus lui. Lui, il a la tentation de ne pas faire ce que Dieu lui a demandé. Il a la tentation de dire non, je n'irai pas jusqu'au bout. Pourquoi leur dit-il, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation? De quelle tentation peuvent-ils être sujets à ce moment-là? Déjà celle de s'endormir, puisque c'est tout simple, mais il y a la tentation de s'endormir, il est tard, et il y a l'endormissement qui peut être là, mais c'est aussi celle de réagir humainement face aux événements qui allaient suivre. Il va y avoir les soldats qui vont venir prendre Jésus, et puis Judas, c'est une trahison, alors on aurait tendance à réagir humainement à ces choses-là, et puis la crucifixion et tout le scénario qui a l'impression se déroule autrement. Il y avait la victoire, il y avait les guérisons, les miracles, Jésus-Christ était vraiment renommé. Et puis là, il va y avoir un tournant, la croix. Et il y avait la tentation pour chacun des disciples, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui ont été appelés par Jésus, de réagir humainement aux événements qui suivraient. Et les disciples ont essayé de veiller, ont essayé de prier, mais ils se sont endormis. Et quand Jésus les a réveillés, il leur a dit, c'est fini maintenant, il n'y a plus besoin de veiller, de prier. Et malheureusement, ils ont réagi mal. L'oreille de Malchus a été coupée, plusieurs ont fui directement, ont abandonné le Seigneur, il s'est retrouvé tout seul. Et puis Pierre va le renier. Et tout cela, ce sont des réactions humaines. Alors, je ne dis pas que nous, face à cela, on n'aurait pas réagi mieux et avec plus de sagesse. Mais cela faisait peut-être le jeu de l'ennemi. Ils ont réagi humainement. C'était ça la tentation, je pense, qui était là à leur porte. Alors, avons-nous ce revêtement de puissance? Avons-nous le revêtement de l'Esprit Saint? Peut-être que l'un ou l'autre a été baptisé du Saint-Esprit il y a plusieurs années déjà. Mais il y a besoin chaque jour de demander au Seigneur d'être renouvelé, de dire: Seigneur, oui, encore aujourd'hui j'ai besoin de ta grâce, mais j'ai besoin de ton esprit pour avancer, pour ne pas faillir, pour ne pas céder à la tentation. Nous est dit dans la parole, et c'est Jean-Baptiste qui dira, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu aussi pour brûler, eh bien, le péché. Il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qu'il baptise du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous baptiser, et de nous baptiser encore, et de nous renouveler dans l'Esprit Saint. Amen. Pour brûler pour le Seigneur. Et dans Actes 1, 8, Jésus dira, le Saint-Esprit va survenir sur vous, cette puissance, et vous serez mes témoins. Mais vous serez mes témoins aussi parce que vous ne céderez pas à la tentation, c'est cela, ça fait partie du témoignage. Alors mon frère, ma sœur, es-tu baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir être prêt au combat? C'est une préparation. Nous nous sommes engagés au travers du baptême et même au travers d'autres choses envers le Seigneur, et automatiquement après il va y avoir la tentation. Est-ce que nous sommes prêts pour vraiment être vainqueurs de la tentation? Alors c'est la première étape, recevoir le revêtement de l'Esprit. Nous suivons ce que Jésus a fait. Il a été baptisé, il a reçu cette onction, ce Saint-Esprit. Et ensuite, eh bien, il fallait qu'ils s'attendent à l'ennemi et à ses tactiques. C'est le deuxième point. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit au travers de ce verset que c'est une étape à passer. C'est quelque chose de volontaire, de prévu. Nous voyons que c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus pour ce temps de tentation. Il s'agit donc d'une chose volontaire, prévue. Il y a un but pour être tenté par le diable. Et donc, vraiment, j'insiste sur le fait que le temps de tentation suit directement le baptême, suit l'engagement. Et dès que vous voudrez faire quelque chose envers le Seigneur, dès que vous prendrez position, alors là commencera vraiment un temps de tentation, un temps d'épreuve, pour voir si nous sommes vraiment engagés envers le Seigneur. Et je citerai l'exemple de pasteurs, de ministères, qui, lorsqu'ils ont été appelés, eh bien, ont eu ce choix entre une vie bien gagnée, certains, j'en connais, étaient contremaîtres d'imprimerie, etc. Il y avait des bonnes payes, il y avait des promotions en vue pile au moment où ils étaient appelés par le Seigneur, où ils avaient un choix à faire, une prise de position à faire pour le Seigneur. Et il y avait ce temps de tentation. Et pour des choses que vous voudrez faire pour le Seigneur, qu'elles soient plus petites, qu'elles soient plus grandes, il y aura ce temps de tentation. Et il faut être prêt à vaincre. Il faut être revêtu de l'Esprit. Et il faut s'attendre à ce temps de tentation. Il faut s'attendre aux techniques de l'ennemi. C'est important de connaître l'ennemi qui est devant nous. Le tentateur, il n'est pas seulement le tentateur, il est le pervers, il essayera par tous les moyens de nous faire tomber, de nous faire lâcher prise par rapport au Seigneur. Dès que vous voudrez faire quelque chose pour le Seigneur, il sera là. Il faut nous attendre à être éprouvés, à être testés. Et c'est ce qui fait notre témoignage, d'un côté comme d'un autre. Si nous cédons à la tentation, eh bien cela fera notre témoignage médiocre. Et si nous sommes vainqueurs de la tentation, eh bien notre témoignage sera plus grand pour le Seigneur. Amen. Et c'est important de connaître notre ennemi. C'est important de connaître le Seigneur, mais aussi celui qui veut nous accuser. Et il y a beaucoup de tentations liées à beaucoup de péchés. Parce que la tentation ne veut pas dire péché, mais la tentation entraîne le péché lorsque nous y cédons. Et il y a beaucoup plus de tentations qu'on ne peut le croire. Et par exemple, dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, il nous est dit de racheter le temps, d'accomplir la mission de faire des disciples, d'œuvrer pour Dieu. Et par rapport à cela, oui, nous sommes d'accord, nous voulons le faire. Mais des fois, nous préférons utiliser notre temps pour d'autres choses qui sont plus futiles, qui sont même inutiles parfois, et on perd notre temps. Alors à ce moment-là, nous sommes limite parce que nous sommes tentés par d'autres choses, des choses qui sont plus terrestres, des richesses, de la gloire. Et peut-être que vous avez décidé de prendre du temps pour le Seigneur, et là vous avez été bien tenté, plein de choses se sont mises. Hein. Ça arrive souvent. On prend position, bon là c'est le moment des vacances, alors Seigneur, je vais avoir plus de temps pour toi. Et puis il va y avoir des voisins qui vont venir pour faire ceci, on va partir à un moment donné pour un temps de repos. Il faut du repos. Hein. Il faut du repos, il faut des temps de repos, mais pas sur toute la période des vacances. À la fin des vacances, vous ferez le bilan que, fin de compte, vous n'avez pas pris plus de temps pour le Seigneur qu'auparavant. Et là, nous sommes limites parce que nous avons cédé quelque part à tout ce qui venait, s'enchaîner pour nous faire perdre du temps. Et le Seigneur, lorsque nous serons devant lui, nous demandera ce que l'on a fait de notre temps. Parce que, qu'est-ce que sont nos années devant le Seigneur, devant l'éternité? Et il est bon de prendre conscience qu'il faut prendre du temps pour notre Seigneur, pendant que nous sommes ici. Et tout le temps que nous avons, donnons-le à notre Seigneur, à son service. 1 Timothée 6,9 nous dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ceux qui veulent s'enrichir. Il y a dans ce verset la notion que la tentation ramène toujours à soi, à ses intérêts, à notre propre personne, à nous-mêmes, à notre ego. La tentation ramène à notre ego. Nous tente sur les choses dans lesquelles nous sommes faibles. Et il y a un moment précis où Satan tente, c'est le moment favorable. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est Jacques qui nous dit cela. Par sa propre convoitise. La tentation nous ramène à nous, alors que l'Esprit de Dieu nous ramène à Christ. Et il y a vraiment ce combat. Alors, à deux moments précis de l'humanité, Satan va tenter. Et j'aimerais voir avec vous ces deux passages parallèles. Il y a d'abord le début de l'Ancien Testament, la Genèse, où Satan va tenter Adam et Ève. Et puis il y a le début du Nouveau Testament, les évangiles, où Christ va être tenté. Alors allons dans la Genèse, chapitre 3. C'est vraiment intéressant de voir les corrélations dans la parole de Dieu. Des centaines d'années s'écoulent entre ces pages. Nous les tournons, nous pensons que bien, il y a pas beaucoup d'années des fois, et pourtant il y a des centaines d'années. Et dans Genèse 3 et Matthieu 3, eh bien, il y a le même mode opératoire utilisé par Satan. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Là, il y a le doute qui est semé. Et la tentation va venir aussi par le doute. La tentation va venir par le doute. Nous le voyons aussi dans les évangiles. Il dira au Seigneur Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu !» Il y a le doute. C'est la première chose. Il va vous faire douter. Est-ce que tu es vraiment sûr que dans cette chose-là, tu n'as pas péché? Maintenant que tu... Est-ce que tu es sûr? Alors maintenant, bon, puisque tu as péché, continue dedans, c'est pas grave. Il va semer le doute sur votre foi. Est-ce que votre foi est ferme? Il va semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu t'a-t-il vraiment fait cette promesse? Tu n'en vois pas l'accomplissement. Autant repartir en arrière. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, il va semer le doute. Et puis ensuite, nous voyons au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Une autre chose, là, il va venir avec une affirmation qui est fausse. Vous ne mourrez point. Il va dire cette chose, vous ne mourrez point. D'accord, ils ne vont pas mourir sur le champ, mais le péché va leur donner la mort éternelle, la perdition éternelle, le péché. Il va amener une affirmation fausse et il va dire au Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, eh bien il va lui proposer la gloire du monde et il va dire parce que la gloire m'a été donnée. Où voyez-vous cela dans la Bible ? La gloire, il est le prince de ce monde, mais Jésus est le Seigneur notre Dieu est souverain. Alors, d'accord, il règne sur ce monde, mais il y a une affirmation fausse. En aucun cas, la gloire, eh bien, lui appartient. Et puis, il va dire, dans la suite de Genèse, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et il va dire encore, vous serez comme des dieux. Ah, vous serez comme des dieux. Cela amène la fierté de l'homme. Il touche à un point sensible de l'homme, à son orgueil, à sa fierté. Vous serez comme des dieux. Ah, ça c'est intéressant. Et il va dire à Jésus, il va citer un verset de la Bible à Jésus. Il va dire, oui, ils te porteront, les anges te porteront si tu tombes. C'est un verset. Mais il va toucher à un point, il va essayer de toucher la fierté de Jésus. Oui, c'est vrai, je suis le Fils de Dieu, alors si je descends, les anges vont me porter. Il voulait toucher à la fierté de Jésus. C'est un point qu'il veut toucher aussi lors de la tentation. Il veut dire, oui, mais entre être... disciple de Jésus-Christ et puis avoir un peu de gloire dans le monde quand même, ça fait pas de mal, hein. Tu pourrais être fier de ta vie au moins lorsque tu as. Il va essayer de vous tenter par toutes sortes de choses et il va aussi dire connaissant le bien et le mal, il va toucher à la connaissance, au savoir de l'homme et il tente par toutes ces choses. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de tactiques employées par Satan. Mais s'il a réussi dans Genèse, il pensait réussir avec Jésus, mais Jésus-Christ a été vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'il était fils de Dieu, mais aussi parce qu'il était armé pour la tentation. Parce que, je vous rappelle, il a subi 40 jours de jeûne et il avait faim. Et alors, Satan est venu le tenter. Il était faible. Mais il avait l'Esprit de Dieu et il connaissait la parole de Dieu pour pouvoir répondre. Et imaginez un instant si Jésus, à ce point capital, s'était laissé tenter, avait cédé à la tentation. Nous, que serions-nous ? Nous serions perdus encore une fois à tout jamais. Parce qu'il avait réussi dans la Genèse, mais il n'a pas réussi dans les évangiles, dans la nouvelle ère. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Et dans Luc 4, 13, c'est l'autre passage de la tentation, puisqu'il y a deux passages de nommés. Il y a Matthieu 4, et puis il y a Luc 4. Matthieu 4, 13 nous dit après l'avoir tenté de toutes ses manières, vous voyez, de toutes les manières, le doute, l'affirmation fausse, la fierté, la connaissance, la gloire, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ce moment favorable, il est très important et il faut en prendre compte pour nos vies. C'est toujours à un moment favorable qu'il va venir. Il va venir lorsque Ève est toute seule et peut-être faible par rapport à ce serpent qui la trouble. Il n'y a pas Adam, ils ne sont pas deux pour pouvoir le contrer. Elle va être toute seule. Il va venir lorsque Jésus a faim. Et il va venir lorsque vous serez en moment de faiblesse, en situation de faiblesse. Galates 1 nous dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, donc qui avez l'esprit de Dieu, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et il y a le danger lorsque, eh bien, nous voyons une tentation et qu'un frère, une sœur a cédé à la tentation, eh bien, d'être pris nous-mêmes dans l'engrenage, d'être emporté. Attention au moment favorable, parce que peut-être la chute de l'un va provoquer notre propre chute. Et il faut prendre garde à nous-mêmes. La tentation peut se faire soit dans l'instantané, nous y cédons, et parce qu'on a eu une forte tentation, soit elle va venir dans un processus tout en douceur, petit à petit, et puis elle va venir une première fois, puis on va pas s'en occuper. Une deuxième fois, on va pas s'en occuper. Une troisième fois, et puis on va regarder la proposition qui est faite de la tentation. Et puis on étudie la proposition et puis on tombe dans la tentation. La tentation peut se faire en douceur et il faut prendre garde lorsque la tentation se présente, et bien de tout de suite répondre. Alors on se dit, oui, tout va bien, je contrôle l'affaire, de toute façon, je ne suis pas le seul à être tombé. Oui, mais tu seras seul lorsque, devant Dieu, il faudra rendre compte pour toi-même. Et si ce matin tu es tombé dans un péché, dans quelque chose, si tu as cédé à la tentation parce que c'était plus fort que toi, eh bien, je t'invite vraiment à te repentir, à demander pardon au Seigneur de t'être laissé emporter. Alors, il faut connaître notre ennemi. Alors, être revêtu de l'esprit, connaître notre ennemi et ses tactiques. Et puis, enfin, eh bien, répliquer et vaincre la tentation. Parce que c'est important. On est sujet à la tentation, mais il faut quand même la vaincre, n'est-ce pas? Amen. Répliquer et vaincre. Matthieu 4, 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retire-toi, Satan. Il va premièrement lui dire cela. Retire-toi, Satan. Il faut répondre. Et il va dire, il est écrit. Il cite la parole de Dieu. Il est écrit. La parole de Dieu, si nous regardons dans Éphésiens 6, où il y a toutes les armes des chrétiens, nous voyons que la parole de Dieu est une épée. Et c'est la seule arme qui est offensive, c'est-à-dire qui attaque. Les autres sont défensives. Il y a le bouclier, la cuirasse, le casque, les chaussures, les sandales du zèle. Et l'épée de la parole est la seule qui contre, qui attaque. La parole de Dieu est une épée. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Et les chapitres 3 et 4 sont importants. Ils nous parlent de la tentation qui a eu lieu avec le peuple hébreu en son temps. Hébreux 4, versets 11 et 13. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'exemple de désobéissance qui est cité ici est celui du peuple hébreu dans le désert, parce que ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Dieu leur a dit, vous pouvez aller conquérir le pays de Canaan. Ils ont envoyé des espions, les espions sont revenus défaitistes, et ils n'ont rien fait. Et ils n'ont pas cru que Dieu, eh bien, pouvait être avec eux pour les délivrer de ces géants qui étaient là. Conséquence, 40 ans dans le désert. Conséquence, des milliers de morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et il y a une tentation qui est un péché, c'est celle de tenter Dieu. Et j'aimerais m'attarder sur ce point, le fait de tenter Dieu, éprouver Dieu, parce que nous ne croyons pas en lui. Et Hébreux 3, chapitre 3, versets 7 et 9, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Il n'est pas parlé de la tentation du peuple hébreu ici, dans le désert, mais de la tentation de Dieu, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. C'est Dieu qui parle ici. Et il parle des hommes qui tentent, qui le tentent, qui l'éprouvent, parce qu'ils disent ne pas croire que Dieu a la capacité de faire les choses, de les délivrer, d'être avec eux. Pourtant, Dieu les avait secourus de l'Égypte. Ils avaient toute bonne raison de croire que Dieu pouvait les délivrer de Canaan et leur permettre de conquérir ce pays. Mais ils ont murmuré, ils ont tenté Dieu. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu est avec eux pour prendre le pays qu'ils ont tenté Dieu. Et lorsque on ne croit pas que Dieu est assez puissant pour accomplir les promesses qu'il a faites pour nos vies, ou alors pour exaucer une prière qu'on lui a adressée, eh bien nous tentons Dieu, parce que on fait Dieu incapable, on fait Dieu impuissant. Lorsqu'on dit dans notre cœur, lui pourra jamais se convertir, c'est pas de sitôt qu'on verra une guérison dans notre assemblée. Eh bien, nous rentrons dans le processus de tenter Dieu. Et là, c'est une grave tentation qui est devant nous. La tentation de croire que Dieu n'est pas assez puissant, n'est pas assez Dieu, en fin de compte, pour nous. Tenter Dieu est un péché. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus va répondre à Satan. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et si on désobéit à ce commandement, c'est un péché. C'est la seule tentation qui est un péché, c'est celle de tenter Dieu. Alors il faut répondre, il faut répliquer, il faut dire, il est écrit à ce qui veut nous faire tomber, à cette tentation. Il est écrit, oui, mais il est écrit quoi ? Il est important de connaître notre Bible, n'est-ce pas ? Pour pouvoir répondre à cette tentation. Il est important de connaître notre Bible, je ne vais pas dire sur le bout des doigts, mais presque, parce que c'est la parole du Seigneur, c'est le livre que nous devrions connaître le plus. Pensez d'ailleurs aux musulmans qui connaissent par cœur, de nombreux connaissent par cœur le Coran en entier. Et nous ne serions pas capables de répondre à peut-être une simple tentation, il est écrit, et de répliquer un verset de la parole de Dieu. Connaissons, il est important de connaître notre Bible. Chers frères, chères sœurs, il faut vraiment méditer la parole de Dieu, ne pas seulement la lire, allez, je lis un chapitre chaque soir et j'ai fait ma BA envers le Seigneur. Non, c'est le lire et puis le relire. Le relire jusqu'à ce que cela travaille notre cœur, que nous puissions vraiment le repasser dans notre cœur. Et il faut savoir qu'on parle de méditer la parole de Dieu. Alors cela pourrait des fois se confondre pour ceux qui ne connaissent pas cette expression dans nos assemblées à une méditation un peu de zen. Mais méditer, dans l'Ancien Testament, dans le littéral, c'est publier, proclamer. C'est dire à voix haute. Et je vous invite, lorsque vous êtes seul, peut-être dans votre chambre, ou lorsque vous avez l'occasion de lire la parole de Dieu, de la lire à voix haute. Déjà, ça va vous permettre aussi d'imager un peu plus les choses. Mais lire à voix haute, cela est une proclamation de notre bouche. Et l'adversaire entend la parole. Et il sait que nous ne sommes pas prêts à être vaincus par la tentation. Il est important de connaître notre Bible. On peut vaincre la tentation parce qu'aucune n'est au-delà des capacités que Dieu nous accorde pour la vaincre. Aucune tentation que nous avons en face de nous, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, ne pourra être vaincue. Il nous faut l'Esprit de Dieu, c'est important. 1 Corinthiens 10, 13, je vous le lis, ne cherchez pas, il dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc toute tentation qui se présente, vous pouvez la vaincre. Amen. C'est bon de savoir cela, n'est-ce pas? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et la tentation, il nous faut la supporter. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il s'agit de Jésus-Christ. Nous avons un exemple qui a été baptisé, il a reçu l'onction. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il n'a pas seulement été tenté au chapitre 4, mais il a été tenté aussi avant la croix. Il a été tenté en plusieurs choses. Et combien de fois il a été tenté de manifester sa gloire face aux attaques, notamment d'Hérode et de ceux qui l'ont fait comparaître. « Fais-moi un miracle !» il demandait. C'était une tentation pour Jésus de manifester sa gloire parce qu'il le pouvait. Mais il a été jusqu'à la croix, jusqu'au bout. C'est un exemple que nous suivons. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Puissions-nous être comme lui. Jésus a dit aussi « Retire-toi, Satan !» Et il y a un verset qui est une clé pour être à l'abri de la tentation, de céder plutôt à la tentation. C'est Jacques, chapitre 4, verset 7. C'est tout simple, tout le monde le connaît, il me semble. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors souvent, on prend en compte « résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais on oublie « soumettez-vous donc à Dieu. » Et c'est là une des clés qui nous permettra de vaincre plus facilement la tentation. C'est de se soumettre à Dieu, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté de Christ, à ce que Dieu nous dit, à la parole de Dieu. Être soumis à notre Seigneur nous entraînera forcément dans ses voies et à être, lorsque la tentation arrive, nous sommes dans les voies de Dieu. Alors, quand la tentation arrive, nous sommes plus forts pour pouvoir répondre. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de résister au diable, la condition est d'être soumis au Seigneur Jésus. On peut être sous le règne du diable, sous le règne de Dieu, mais pas les deux. Et il faut choisir d'être soumis à Dieu ou d'être soumis au diable. Et si vous êtes soumis à Dieu, alors vous pouvez résister au diable. Et il fuira loin de vous. Et la tentation fuira loin de vous. Amen. C'est parce que Christ est en vous que vous pourrez le faire, par l'Esprit de Dieu. Et Luc 4, 14 nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » C'est juste après la tentation, il nous est dit que Jésus est revêtu encore de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit. Avoir vaincu la tentation vous rendra encore plus fort. Mais attention à certaines faiblesses qui pourraient, par le relâchement, par un éloignement, se renforcer. Les faiblesses, être creusées dans nos vies, et alors la tentation pourrait s'infiltrer. Il faut être toujours rempli du Saint-Esprit, avant la tentation, pendant la tentation, après la tentation. Être rempli de l'Esprit continuellement, et surtout après, parce que Satan va venir au moment favorable. Jusqu'au bout de notre vie terrestre, nous serons soumis à la tentation. Et jusqu'au bout de notre vie terrestre, il y aura des moments plus favorables à céder à la tentation que d'autres moments. Mais la victoire finale approche. Amen. Jésus revient et la victoire finale contre la tentation, sur la tentation, arrive. Nous ne serons pas jamais sujets à des tiraillements dans nos vies, à ce combat de la tentation entre l'Esprit de Dieu et la chair qui voudrait satisfaire ses propres désirs. Non, lorsque nous serons au ciel et lorsque le Christ viendra nous chercher, eh bien cela cessera et nous serons libres entièrement, sauvés entièrement, que son nom soit béni. En conclusion, je citerai deux versets, je vous en lis un et vous pouvez chercher l'autre. Jacques 1,12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra, qu'est-ce qu'il recevra ? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Amen. À ceux qu'il aime. Il faut avoir de l'amour pour Dieu pour résister à la tentation. Et Apocalypse 3,10, si vous voulez bien prendre avec moi, Apocalypse 3,10, c'est dans une des lettres à une église. Apocalypse 3,10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la tentation se fait de plus en plus forte au fur et à mesure des jours qui passent. La tentation se fait de plus en plus forte. Il y a de plus en plus de choses qui nous assaillent pour nous faire tomber. Et il est important d'être armé, amen, et d'être prêt à vaincre. Et demandez au Seigneur de vous revêtir de son esprit. Lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, lisez encore et toujours la parole de Dieu à chaque instant que vous pouvez. Ce n'est pas un simple livre, c'est vraiment la parole de Dieu qui est vivante, qui est puissante pour nos vies. Et la parole de Dieu a ce pouvoir de purification, de sanctification. Si vous avez péché, si vous êtes tenté, vous sentez que c'est vraiment fort, lisez la parole de Dieu. Elle vous sanctifiera. Et si vous lisez la parole de Dieu régulièrement, il y a un processus de purification dans votre cœur, dans votre vie, qui n'est pas négligeable. Et puis, faisons attention au chemin que nous empruntons. Peut-être des fois, c'est des pentes douces, mais qui nous amène à la chute, au piège.